en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Canal Académie. À chaque élection d'un nouvel académicien à l'Académie française, Mireille Pastoureau, conservateur et directeur de la bibliothèque de l'Institut, prépare une histoire du fauteuil sur lequel il va désormais siéger. C'est à la fois une surprise et un cadeau de bienvenue. Et c'est ainsi que pour la réception de Monsieur Dominique Fernandez, reçue sous la coupole le 13 décembre 2007, Mireille Pastoureau avait sorti du fond de sa riche bibliothèque tout un ensemble de documents relatifs aux académiciens qui, au long de l'histoire, ont siégé sur le 25e fauteuil. Mireille Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Quel fut donc le prédécesseur de Monsieur Dominique Fernandez ?
Ce fut le professeur Jean Bernard, qui était un fidèle lecteur de la bibliothèque, qui venait très régulièrement.
Alors, sur ce 25e fauteuil, quel fut le tout premier ?
Le tout premier fut Claude de l'Étoile, admis à l'Académie lors de sa fondation en 1634. Il était le fils de l'auteur du célèbre journal des règnes de Henri III et Henri IV.
Ça nous reporte loin.
Voilà, nous sommes au XVIIe siècle. Il était auteur dramatique et poète.
Alors, après Claude de l'Étoile, on arrive à une curiosité sur ce 25e fauteuil, c'est-à-dire au duc de Coislin, mais il faut écrire au duc avec un X parce qu'ils sont trois. Enfin, ils ne siègent pas trois en même temps, rassurons-nous, mais trois l'un après l'autre.
Exactement, il y avait des traditions de dynastie, surtout dans ces familles. Vous savez qu'à l'Académie française, pendant très longtemps, il y a eu comme tradition d'avoir des membres qui étaient ducs, d'autres qui étaient maréchaux, d'autres qui étaient des cardinaux. Et donc, nous avons trois ducs de Coislin successifs.
Alors le premier, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qui était-il ?
Le premier a une particularité parce qu'il fut élu à l'âge de 16 ans et demi, car son grand-père était le chancelier Séguier, grand ministre du XVIIe siècle. Il était le filleul du cardinal de Richelieu, protecteur de l'Académie française. Et donc, à la demande de ces grands personnages, il fut élu à l'unanimité à l'âge de 16 ans et demi.
Merveilleux. Voilà, on dit toujours que les académiciens, c'est une fin de carrière, mais pas du tout. Là, c'était le contraire. Et alors après ?
Alors après, il y eut son fils, qui fut aussi un militaire, et son deuxième fils, qui fut homme d'église, évêque de Metz, et qui a légué à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés une magnifique bibliothèque qu'il avait héritée du grand-père Séguier, de son père. Et cette collection fut ensuite transférée à la Bibliothèque nationale.
Alors ça, c'était donc les trois ducs de Coislin. On arrive en 1754 et alors là, on rencontre un personnage éminent, Jean Leron. Évidemment, on le connaît plus sous son autre nom, D'Alembert. Alors racontez-nous un peu pourquoi on l'appelle D'Alembert, ce Jean Leron.
On l'appelle D'Alembert parce que, à l'origine, il n'avait pas vraiment de nom, si l'on peut dire. C'était un enfant naturel du chevalier des Touches et de Madame de Tencin qui l'abandonna dès sa naissance sur les marches de l'église Saint-Jean Leron, dont on donna le nom à l'enfant. Et il fut inscrit sous le nom de D'Arembert comme élève au Collège des Quatre Nations.
Où nous nous trouvons maintenant, puisque c'est l'ancien nom de l'Institut de France.
Exactement. Et il changea ensuite le nom de D'Arembert en D'Alembert.
Et alors, que possédez-vous à la bibliothèque exceptionnelle de D'Alembert ?
Alors, nous avons la chance d'avoir un grand ensemble de manuscrits et d'archives de D'Alembert qui provient de Condorcet, qui était son légataire universel. Condorcet lui-même étant mort sous la Révolution, vous savez, il était poursuivi, il s'était enfui, il a été exécuté. Et sa fille a sauvé les papiers, elle est partie en Angleterre et en 1853, elle a légué tous les papiers de son père Condorcet et de D'Alembert à la bibliothèque de l'Institut.
Merci, on la remercie beaucoup. Il faut ajouter que D'Alembert est entré à l'Académie des sciences à 23 ans.
Exactement, il était très précoce, il a été secrétaire perpétuel de l'Académie française, il est entré à l'Académie des sciences et il a été également membre de l'Académie de Berlin et de toutes les académies d'Europe, ami de tous les philosophes et familier de tous les salons.
Un grand personnage. Après, nous avons un autre personnage, peut-être un peu moins connu, mais tout de même qui présente une particularité, c'est Auguste de Choiseul-Gouffier.
C'était un helléniste, connu comme membre de l'Académie des inscriptions, à laquelle il entra avant l'Académie française. Et très jeune, il avait appris de l'abbé Barthélemy l'amour de l'Antiquité grecque, au point que Madame du Deffand l'appelait le grec. C'était le lettré accompli d'un commerce très agréable. Et Champfort a écrit à son sujet: c'est un des êtres qui ont contribué par leur vertu et leur commerce à me réconcilier avec l'espèce humaine.
Oh, c'est un joli compliment. Alors, il a publié aussi un voyage en Grèce.
Oui,
évidemment.
Il a passé une année en Orient en 1776. Il a rapporté des éléments non seulement écrits, mais graphiques, des dessins de ses voyages. Il fut ensuite ambassadeur à Constantinople et il a publié un magnifique ouvrage, Voyage pittoresque de la Grèce, en deux gros volumes.
Alors, vous avez dit qu'il était de l'Académie des inscriptions, puis de l'Académie française, mais je crois qu'il est allé aussi à l'Académie des beaux-arts. Il a cumulé les académies.
Exactement, il a accumulé les académies. Les archéologues étaient souvent un peu dessinateurs.
Alors, de l'archéologie, nous allons passer plutôt à la philosophie ou même à la politique avec Portalis, dont on a beaucoup parlé, et même sur Canal Académie, puisqu'on a célébré son bicentenaire il n'y a pas très longtemps.
Oui, Portalis est connu pour le rôle qu'il a joué dans la confection du Code civil. C'était un juriste et il donc fut élu membre de l'Institut national. Les académies avaient été supprimées en 1793, l'Institut créé en 1795, composé de classes. Il était donc membre de la classe de la langue et de la littérature française. Il fut élu en 1803.
Et que possédez-vous à la bibliothèque de lui ?
Donc nous possédons des œuvres juridiques, le Code civil, des textes juridiques, et nous avons montré à cette occasion le premier costume des membres de l'Institut, car il fut l'un des premiers membres à porter le costume.
Ce costume qu'on porte encore aujourd'hui ?
Qu'on porte encore aujourd'hui, qui n'existait pas à la fondation de l'Institut. On n'en avait pas senti le besoin en 1795, mais au bout de quelques années, les membres ont ressenti la nécessité d'être identifiés lors des cérémonies officielles. Ils ont souhaité avoir un signe distinctif. Il y a eu un débat pour savoir si ce serait une médaille, une canne. Et finalement, ils se sont rangés au principe du costume. En 1800, en Assemblée générale, ils ont décidé d'avoir un costume. Alors ensuite, ils ont créé une commission pour dessiner le costume, préciser le modèle, la couleur du feuillage. Et nous avons toutes ces archives à l'Institut. C'est fort intéressant.
Et portait-il à ce moment-là une épée ?
Pas encore.
Ah, pas encore.
Le premier costume était prévu sans épée et cette gravure que nous montrons présente le membre avec un livre dans les mains. Je trouve que c'est très beau comme symbole. Et l'épée n'est venue qu'après, à partir de 1804, car pour être admis à la cour, où Napoléon voulait rétablir des habitudes d'ancien régime, il fallait porter l'épée.
Alors, on va faire un petit saut dans le temps et puis arriver à une élection à l'Académie française en 1833, celle de Charles Nodier. Rappelez-nous qui il était, Mireille Pastoureau.
Alors, Charles Nodier fut l'un des auteurs les plus prolifiques de la langue française. Il était considéré à son époque, et cela a été un peu oublié, comme un grand philologue, un lexicographe. Il était d'une curiosité insatiable dans le domaine du livre. Il est l'un des premiers grands bibliophiles. C'était un grand collectionneur et il a fondé le Bulletin du bibliophile, qui est la Bible des collectionneurs, qui est une revue qui s'adresse aux amateurs de livres rares et précieux et qui existent encore aujourd'hui dans la tradition qu'il a instaurée.
Alors, on a envie de savoir où est la bibliothèque de Charles Nodier maintenant?
Oui, alors elle a été dispersée. Il a été longtemps conservateur de la bibliothèque de l'Arsenal, où il tenait un salon qui est devenu le centre d'une société littéraire, où les premiers auteurs romantiques se sont fait connaître. Et ses livres sont encore recherchés par les collectionneurs. Après lui, sa bibliothèque n'a pas été conservée intacte.
Dommage.
Dans son ensemble.
Dommage. Alors, il paraît que c'était un homme tout à fait exceptionnel. Et même, on peut lire dans Le Moniteur du commerce du 27 décembre 1833, c'est à vous évidemment, Mireille Pastoureau, qu'on doit d'avoir fait ces recherches. Aujourd'hui, 26 décembre, a eu lieu la réception de M. Charles Nodier à l'Académie française. Il y avait foule de jolies femmes près desquelles se pressait l'élite de notre jeune littérature. Victor Hugo attirait les regards. À 2 heures, M. de Jouy a pris place au fauteuil de la présidence. À sa droite était M. Jay, à sa gauche M. Arnaud, secrétaire de l'Académie. Les bancs de messieurs les académiciens étaient au grand complet. Alors après, évidemment, c'est tout un événement, l'élection et la réception de Charles Nodier.
Voilà, c'est un événement mondain sur la scène parisienne, oui.
Mireille Pastoureau, on va marquer une courte pause et on se retrouve dans un instant.
Marcher sur les traces de Théodore Monod, immortel de l'Académie des sciences, à la fois anthropologue, linguiste, océanographe, géologue, botaniste et philosophe, Théodore Monod a rempli sa vie de 70 années de traversée dans le désert, alignant des distances de 900 km de marche. Récit de cette vie d'aventure avec
Roger
Kans. On retrouve
Mireille Pastoureau dans notre studio de
Parcours.
Canal Académie. On évoque le 25e fauteuil de l'Académie française sur lequel siège à partir de 1844 un auteur éminent, Prosper Mérimée.
Tout à fait. Bon, Prosper Mérimée est connu encore de tous les jeunes élèves pour ses romans, notamment Colomba, mais il fut un grand historien, traducteur, il fut élu membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres avant d'être membre de l'Académie française, et il fut l'un des premiers inspecteurs généraux des monuments historiques, et il contribua à sauver un grand nombre de monuments qui étaient sur le point d'être détruits.
Oui, bien sûr, on le connaît en effet dans sa préservation du patrimoine national, parce que même si, effectivement, de temps en temps, d'aucuns lui font des reproches de la manière de faire, il a tout de même préservé de grands monuments. Et en 1878, c'est une autre élection d'un personnage non moins célèbre, Hippolyte Taine.
Tout à fait. Grand historien, philosophe, libre penseur, qui avait été reçu premier à l'école normale, mais qui ne choisit pas la voie de l'enseignement. Il avait consacré sa thèse de doctorat aux fables de La Fontaine et devint ensuite professeur d'esthétique à l'école des Beaux-Arts. Et nous avons présenté en vitrine son ouvrage célèbre, Les origines de la France contemporaine. Et il y a une dédicace à messieurs les archivistes et bibliothécaires de la Bibliothèque nationale et des Archives nationales en témoignage de gratitude et de respect.
Quoi, il devait fréquenter beaucoup la bibliothèque, je suppose. Ensuite, son successeur, donc, c'est Albert Sorel.
Tout à fait, qui était également membre de l'Académie des sciences morales et politiques et qui est l'un des fondateurs de l'histoire diplomatique en France. Il était entré au Quai d'Orsay en 1866, après des études de droit, et il se vit confier la chaire d'histoire diplomatique à l'École des sciences politiques. Lors de sa fondation, il fut le premier titulaire de la chaire et il assura cet enseignement pendant 35 ans.
Belle constance. Son successeur, le successeur d'Albert Sorel, peut-être un petit peu moins sérieux, encore que, je ne sais pas si on peut utiliser cet adjectif, mais enfin...
Oui, tout à fait. Il s'agit de Maurice Donnet, D-O-N-N-A-Y, élu à l'Académie française en 1907, qui a un parcours tout à fait atypique. Il était fils d'un ingénieur. Il commença par devenir ingénieur lui-même, entra à l'école centrale, en sortit comme dessinateur de charpentes métalliques, mais il se découvrit une vocation de chansonnier. Et il devint chansonnier au célèbre cabaret du Chat Noir et poursuivit ensuite une carrière d'auteur dramatique qu'il conduisit à l'Académie française en 1907.
Alors, voyez que les places sont ouvertes, même pour les auteurs de boulevard, auteurs entre autres de Lysistrata, comédie en quatre actes, que vous avez présenté aussi. Alors, le successeur de ce Maurice Donnet, on ne le présente presque pas.
Oui, c'est Marcel Pagnol, également auteur de pièces de théâtre, cinéaste et romancier, élu à l'Académie en 1946.
Mais sa réception sous la coupole a été un peu exceptionnelle.
Tout à fait exceptionnelle. En 1947, ce fut la première réception sous la coupole filmée.
Et alors, on connaît évidemment de Pagnol ses grandes œuvres et ses grandes comédies, mais on sait moins qu'il a été un très bon traducteur.
Exactement. Il était angliciste. Il commença par être professeur d'anglais. Et nous avons présenté dans cette exposition une traduction de Hamlet de Shakespeare, publiée en 1947. Il a également traduit du latin. Il a traduit les Bucoliques de Virgile, publié chez Grasset en 1958.
Et c'est le graveur Raymond Corbin qui a gravé sa médaille que vous présentez aussi dans cette exposition dans la bibliothèque de l'Institut. Alors on arrive au dernier, presque dernier, que nous avons bien connu aussi, Jean Bernard.
Tout à fait. Nous n'avons pas pu présenter tous ces livres qui sont très nombreux, mais il y en a une vingtaine. Et vous connaissez son œuvre. Ce sont des ouvrages qui sont destinés pas seulement aux médecins, mais au grand public, qui touchent à l'éthique, à la philosophie.
Oui, qui invite à réfléchir effectivement sur les grandes questions.
À quoi sert la médecine, l'avenir de la médecine, et les ouvrages sur le sang des hommes, le sang et l'histoire.
Et le professeur Jean Bernard, qui était également membre de l'Académie des sciences, est décédé en 2006. Et c'est donc Dominique Fernandez qui lui a succédé. Nous avons donc bouclé la boucle, Mireille Pastoureau, de l'histoire de ce 25e fauteuil de l'Académie française. Je vous remercie infiniment de nous avoir éclairé. Ces documents que vous avez préparés sont-ils accessibles sur Internet? Peut-on consulter cette documentation?
Parfaitement. Le catalogue de l'exposition est en libre accès sur Internet, sur le site de la bibliothèque de l'Institut, www.bibliothèque-institutdefrancetoutattaché.fr. Ils sont en libre accès. C'est de la documentation que nous donnons à toutes les personnes qui peuvent être intéressées.
Alors le prochain fauteuil, on a tout de même envie d'en faire un prochain, car nous en avons d'autres dans la médiathèque de Canal Académie.
Exactement, et là, vous savez que l'Académie française recrute beaucoup en ce moment.
Oui.
Eh bien ce sera Max Gallo à partir du mois d'avril, c'est le 24e fauteuil et l'exposition est en préparation.
Alors merci Mireille Pastoureau de bien vouloir venir nous en faire l'historique. Merci.
Avec plaisir,
à bientôt.
Revoir.